Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et si les ennuis revenaient à Barcelone en même temps que les touristes, indépendance ou pas, grosses incertitudes politiques ou pas, c'est toujours le trop-plein de touristes qui inquiète les Barcelonais. Et c'est ce qu'on verra dans l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars, et Yves Decamps qui viendra avec des paris sportifs aux États-Unis, un remède miracle à base d'ânes entre le Kenya et la Chine. 18h50, la carte postale des correspondants de France Inter en Russie avec un pont, mais pas celui de Crimée, vous allez voir. Nous sommes également en Italie avec le mouvement 5 étoiles. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger au mariage princier qui ne plaît pas à tout le monde au Royaume-Uni. Mais d'abord, direction le Venezuela, ces élections présidentielles anticipées sans opposition ou presque, sa terrible crise économique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Élection présidentielle donc au Venezuela dimanche et aujourd'hui le président sortant, candidat à sa succession, Nicolas Maduro, tient son dernier meeting de campagne. Mais au fond, quelles élections, quelle opposition à Maduro dans un pays exsangue et qui se vide même de ses habitants? On y viendra dans un instant avec une inflation complètement hallucinante dont je vous donnerai le chiffre tout à l'heure. Bonsoir Thomas Posado.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 8, spécialiste de Venezuela. Vous êtes en direct de Marseille pour nous. Qu'est-ce qu'on dit, Thomas Posado, d'abord? Qu'est-ce qu'on dit de ces élections boycottées par une grande partie de l'opposition, certains opposants en résidence surveillée? Est-ce qu'on dit que ce sont vraiment des élections démocratiques? Est-ce qu'elles n'ont d'élection que le nom? Comment on qualifie ça?
Elles ont effectivement assez peu de transparence. Il y a plusieurs candidats de l'opposition qui ont été invalidés. Il y a un certain nombre de Vénézuéliens qui sont désormais à l'étranger. Vous disiez, hein, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont pas été inclus dans les registres électoraux. On a une négociation qui a eu lieu sur la date pour qu'elle soit la plus favorable à la réélection de Nicolas Maduro. Donc effectivement, elles ne sont pas transparentes. Par contre, elles sont quand même concurrentielles parce qu'il y a quand même trois candidats qui ont des projets hostile à Nicolas Maduro qui se présente contre lui. Et la situation économique est telle qu'on peut difficilement imaginer la réaction des Vénézuéliens. Est-ce qu'ils vont se saisir de cette élection qui n'est pas organisée de manière transparente pour adresser un message et pour se révolter contre le gouvernement de Nicolas Maduro? C'est difficile de savoir à l'heure actuelle.
Alors, on y viendra. Thomas Posado, vous avez dit quand même qu'il y avait effectivement quelques membres de l'opposition qui sont là. Celui dont le nom revient le plus souvent, c'est un monsieur qui s'appelle Henri Falcon. Enfin, quand même, on a le sentiment qu'il n'a pas pu faire campagne dans les meilleures conditions possibles, non?
Non, et d'autant plus que l'opposition est divisée, c'est-à-dire que les quatre principaux partis d'opposition appellent à l'abstention, donc c'est un vivier de voix pour lui qui est bien plus réduit. Il a essayé de faire campagne en s'appuyant sur le mécontentement de la situation économique que vivent les Vénézuéliens.
Mais finalement, vu quasiment comme un traître aux yeux du reste de l'opposition qui lui reproche de ne pas avoir boycotté, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une opposition qui finalement est en ordre extrêmement dispersé, non ?
Tout à fait. Henri Falcon, il fait partie du courant de l'opposition le plus conciliant avec le pouvoir, qui essaye de négocier des espaces de démocratie, qui essaye de participer aux échéances électorales. À l'opposé, il y a des tendances plus putschistes, plus insurrectionnelles dans cette opposition qui essayent de délégitimer le scrutin, donc en appelant à l'abstention, en faisant des manifestations de rue ou en appelant à la communauté internationale pour qu'elle condamne le gouvernement de Nicolas Maduro.
Et on va parler de la situation économique dans un instant qui prouve jusqu'à quel point les gens ont peut-être d'autres chats à fouetter, mais est-ce qu'on a une idée de ce que peut être la participation dans une élection comme celle-là, ou est-ce que c'est finalement toujours une grande inconnue ?
C'est un des principaux enjeux de ce scrutin. Si la participation est forte, les chances de Nicolas Maduro de l'emporter pourraient être réduites. C'est-à-dire que dans la situation économique que vit le Venezuela, il est possible qu'un vote sanction s'incarne, notamment donc autour d'Henri Falcon, contre la politique de Nicolas Maduro. Et cet enjeu de la participation, il est réel pour savoir quel sera le résultat du scrutin. On est dans un pays où ce qui domine, c'est quand même l'apathie, parce que ça fait un pays qui est en 5 ans en récession, où on a des pénuries d'aliments, de médicaments. Se mobiliser pour des élections présidentielles dont pas grand monde voit quelle sera l'issue bénéfique pour sa vie quotidienne. C'est pas la chose la plus évidente pour les Vénézuéliens. D'un côté, on a Nicolas Maduro qui propose de prolonger la catastrophe économique qui existe depuis déjà plusieurs années. D'un autre côté, les revendications d'Henri Falcon de dollariser l'économie, elles peuvent être vues comme dangereuses à long terme pour une partie de la population vénézuélienne qui peut être attachée à une souveraineté nationale.
Alors l'état de ce pays quand même, Thomas Posado, le pire effondrement économique, dit-on, depuis ces 50 dernières années, une inflation, j'en parlais tout à l'heure, à 14 000%, je ne sais même pas ce que ça veut dire, une inflation à 14 000%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la population? On a vu beaucoup d'images dans les hôpitaux, notamment dans tous ces lieux qui sont censés être des services publics. Qu'est-ce qu'on dit de l'économie vénézuélienne aujourd'hui? Est-ce qu'elle a jamais été aussi bas? Est-ce qu'on peut remonter d'une catastrophe pareille?
Espérons-le pour les Vénézuéliens. Effectivement, la vie quotidienne pour les Vénézuéliens, elle est extrêmement difficile. Vous le disiez, donc dans les hôpitaux où on a des pénuries de médicaments, où on a aujourd'hui des gens qui meurent au Venezuela par manque de médicaments. On a des pénuries d'aliments, c'est-à-dire que les Vénézuéliens sont sous-alimentés.
Ouais.
Tout à fait. Un des motifs de campagne d'Henri Falcon contre Nicolas Maduro, c'est de le surnommer le candidat de la faim, donc la FAIM, pour lui faire porter le poids de la situation économique et sociale. Et ce que cela signifie, c'est des salaires qui ne valent plus rien au Venezuela. Aujourd'hui, avec le salaire minimum, on a de quoi acheter 10% des besoins alimentaires d'un foyer pendant un mois. On a même un phénomène de salariés qui ne vont pas au travail parce que
ça sert à rien, en fait.
Est tellement faible que de toute façon, ça ne leur permettra pas de survivre à la fin du mois.
Et alors la faim, comme vous dites, FAIM, en fait fuir certains, parfois très loin de leur base, mais le plus souvent chez les voisins de Colombie. Pour aller en Colombie, on passe par un pont qui s'appelle le pont de Cucuta. Bonsoir François-Xavier Freland. Bonsoir François-Xavier. Voilà, les ONG parlent de 3 millions d'exilés vénézuéliens en 5 ans depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro. C'est un chiffre qui est compliqué parce que c'est un chiffre qui vient de l'opposition, mais qu'importe, le chiffre, il est énorme. Et pour ces gens, ce sont des heures de bus, de marche pour aller de l'autre côté. On écoute votre reportage François-Xavier, on se retrouve après.
Oui, ce que vous entendez derrière moi, eh bien, c'est les roulettes des valises que traînent ces réfugiés vénézuéliens sur le pont de Cucuta. Visage amaigri, regard hagard, avec un mélange de colère et de fatigue. C'est un flux continu d'exilés qui traversent le pont. Gabriela, infirmière, est originaire de Valencia, au centre du pays. Elle vient de poser un pied en Colombie après d'innombrables checkpoints. Elle dénonce le mauvais traitement, la corruption même de la part des douaniers vénézuéliens.
Ici, on peut dire du mal de Chavez et de Maduro. Là-bas, on ne peut pas. Car c'est là que travaillent les minables fonctionnaires d'État qui nous volent jusqu'à plus de 6000 bolivars au passage pour nous faire payer la sortie alors qu'ils ne servent à rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est nous obliger à acheter ce timbre fiscal. Et une fois vendu, ils le récupèrent pour le revendre au suivant.
La information de vous, les Vénézuéliens, en notre pays, sinon pour formuler une politique intégrale d'attention humanitaire.
Alors ce que vous entendez maintenant, c'est le message de bienvenue des autorités colombiennes. De ce côté-ci, c'est un autre décor. Les forces de sécurité locales ont pour consigne de traiter avec le plus grand égard ces populations harassées de fatigue pour la plupart. Les fouilles des valises sont néanmoins régulières. Nous sommes dans une zone dangereuse de paramilitaires et de trafiquants de cocaïne. Certains exilés ont néanmoins le droit à un repas dès l'arrivée. Parmi eux, Mildred, vendeuse ambulante, 35 ans, ancienne chaviste, originaire de Ciudad Caribia. C'est la cité construite à la sortie de Caracas, faite de logements sociaux, par Chavez en 2011. C'était alors la fierté du régime.
Ce que je peux vous dire de Maduro, c'est qu'on s'est vraiment trompé avec lui. On pensait que ce serait un bon gouvernement pour le Venezuela après Chavez. Mais voyez par vous-même, il n'y a plus rien à faire. Eux disent que ce n'est pas de leur faute. Moi, je n'en sais rien, sincèrement. Ils disent que c'est l'économie qui va mal, mais en réalité, c'est nous qui payons.
Ellos dicen que es la economía, la cuestión, pero en realidad nosotros somos los que estamos pasando trabajo.
Usted es chavista.
Usted es chavista.
Sí.
Jamás madurista.
Vous n'êtes pas maduriste.
No.
Merci d'être là, m'ont dit certains exilés, car le sentiment d'être oublié par la communauté internationale est très fort ici. Il faut comprendre que ceux qui passent par ce pont sont les plus pauvres. Ils ont fui les quartiers populaires des grandes villes du Venezuela. Ça n'a rien à voir avec ceux plus riches qui ont pris l'avion pour le Chili, l'Europe ou les États-Unis. Ici, eh bien, c'est un petit peu l'ancien électeur chaviste qui fuit la faim, la répression et puis souvent la peur. José, 20 ans, originaire de Caracas, est avec sa famille. Il va prendre le bus direction Bogota, puis le Pérou.
Moi, j'étais mécanicien, je changeais les pneus. Mais je n'avais plus de boulot et à peine de quoi manger. Heureusement, mon père habite le Pérou, alors il nous envoyait de l'aide pour se nourrir un peu. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça continue, Maduro va se retrouver tout seul dans son pays.
Alors il faut savoir que les exilés vénézuéliens en général ne restent pas à Cúcuta. Ils prennent le bus direction Bogota, puis l'Équateur ou le Pérou. On en retrouve cependant quelques-uns à Cúcuta, donc dans le centre de cette ville colombienne, riche avec ses fast-foods, ses immenses centres commerciaux. Ces Vénézuéliens moins chanceux vendent des fruits dans la rue ou font la manche en tendant la main. J'en ai croisé quelques-uns, Fabienne.
François-Xavier Frelan, merci beaucoup. François-Xavier, Thomas Posada, il y a quelque chose qui me frappe dans ce qu'on vient d'entendre ensemble, c'est cette femme qui dit « on s'est trompé, on s'est tellement trompé sur Maduro ». Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le sentiment général? On a cru que c'était cette succession à Chavez et puis ça a été tout autre chose?
Oui, en partie. Après, il y a des conjonctures qui dépassent largement Nicolas Maduro. Une des raisons de l'effondrement du Venezuela, c'est le détournement de la monnaie vénézuélienne. C'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle d'échange qui a été mis en place par Chavez en 2003 et qui a été détourné par des grandes entreprises avec la complicité du gouvernement, avec des dollars subventionnés pour des importations qui ne se réalisaient pas, pour des importations qui étaient surfacturées. Et ça a fait des centaines de milliards volés à l'État vénézuélien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur le nombre de bolivars qu'il faut pour avoir un dollar au marché noir, c'est de 700 000. Il y a seulement 5 ans, c'était de 10 dollars. Enfin, c'était de 10 bolivars. Donc, on a un différentiel qui est énorme. On a une monnaie qui s'effondre. Et de fait, avec une monnaie qui s'effondre, tout le pouvoir d'achat des Vénézuéliens est réduit à néant. Et la capacité d'importer des biens du Venezuela est réduite à néant. Dans ces conditions-là, elles dépassent largement le comportement le gouvernement de Nicolas Maduro, même s'il n'a rien pu faire et s'il n'a rien réellement fait pour mettre fin à ce détournement du change avec une corruption qui est endémique et où son gouvernement a une complicité dans cet effondrement de la monnaie vénézuélienne.
Et alors un effondrement des cours aussi, c'est aussi la conséquence peut-être de ce qu'on appelait à l'époque le socialisme à la Chavez, non, qui reposait exclusivement sur le pétrole. Et quand le pétrole tombe, c'est la catastrophe.
Plus que socialisme, parce qu'enfin le Venezuela est une économie où la part du secteur public, elle représente 30 à 35%, donc c'est pas une économie socialiste à ce sens du terme, c'est plus une économie rentière, c'est-à-dire une économie
à la Chavez,
qui se base sur un seul produit de matière première, sur une mono-exportation. Plus de 95% des exportations du Venezuela sont basées sur le pétrole. C'est-à-dire que entre 2004 et 2014, quand le cours du baril de pétrole était à plus de 100 dollars, le Venezuela a été un phare d'abondance, où il y a eu des programmes sociaux qui ont amélioré les conditions de vie des Vénézuéliens. Mais depuis la décrue et additionné à des problèmes comme le détournement du taux de change, que j'évoquais tout à l'heure, ça fait deux phénomènes qui rendre cette situation d'abondance à une situation de pénurie extrême. Mais ces phénomènes de cycle d'abondance et de crise, malheureusement au Venezuela et malheureusement dans beaucoup d'économies rentières, ils existent. Après, aujourd'hui, au Venezuela, on a une crise qui a une intensité inégalée, mais ces cycles d'abondance et de crise, ils sont malheureusement le propre des économies rentières, qui est un vrai problème dans la structure de l'économie vénézuélienne.
Et ce que ça veut dire aussi, c'est que si le pétrole remontait, ce qui n'est pas impossible, et surtout dans le contexte aujourd'hui, c'est pas ça qui sortirait les Vénézuéliens de l'ornière, en tout cas certainement pas rapidement.
Non, enfin la crise est trop grave pour qu'une remontée du pétrole à court terme permette d'améliorer la situation des Vénézuéliens. On a un pays qui est en défaut partiel de paiement, qui a une dette entre 100 et 150 milliards de dollars. On parlait du chiffre de l'inflation, donc de l'ordre de 14 000%. Enfin, à moins que le cours du pétrole remonte à 500 dollars le baril. C'est pas l'hypothèse la plus probable, évidemment. Il sera difficile que l'économie vénézuélienne se remonte comme ça. Il faudrait que tout l'argent qui a été volé à l'État vénézuélien puisse être restitué. Peut-être annuler partiellement cette dette pour que l'économie vénézuélienne ait un petit peu d'oxygène. Mais pour l'instant, la situation des Vénézuéliens est extrêmement difficile.
Thomas Posada, une dernière chose. Est-ce que quand on regarde le Venezuela, je pense aussi aux très grands voisins du Brésil qui sont finalement pas si loin, est-ce qu'on est en train d'assister en ce moment à une sorte de fin de la gauche en Amérique latine, un retournement politique qui est de toute façon générale, qui n'est pas seulement le cas du Venezuela, mais de beaucoup des voisins finalement?
Oui, on a eu un cycle de gouvernement de gauche entre 1998 et 2015. Et depuis quelques années, on voit effectivement la droite arriver au pouvoir en Argentine, au Brésil avec le coup d'État institutionnel de Michel Temer, en Chili également de manière démocratique. Donc on a un retour des droites au pouvoir, des droites qui sont fragiles. C'est-à-dire que en Argentine, Mauricio Macri a des taux d'impopularité assez importants. Et on a une situation économique qui est difficile et qui rend que les nouveaux gouvernements sont impopulaire. Donc que ce soit les gouvernements de gauche qui restent au pouvoir, à savoir en Bolivie, au Venezuela, dans une moindre mesure en Équateur, et où même les gouvernements de droite sont confrontés à des difficultés extrêmes, où Michel Temer a des niveaux d'impopularité au Brésil extrêmement forts. On voit à la fois des mouvements sociaux qui se développent et à la fois une montée d'une extrême droite, notamment au Brésil, autour de la personnalité de Bolsonaro, qui est extrêmement préoccupante, avec une nostalgie de dictature militaire qui peut être très préoccupante pour l'avenir de l'Amérique latine.
Toute dernière question, vous voyez le Venezuela, ou est-ce que quand on a faim, FIM, effectivement, c'est très compliqué, mais est-ce que vous le voyez se saisir de ces opportunités-là et de cette élection-là, manifester, crier, être en colère, le montrer ou pas?
Oui, on peut l'imaginer. Après, est-ce que c'est un scénario qui va avoir lieu? Et est-ce que cette colère va avoir un débouché politique suffisant pour changer la société vénézuélienne? Les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Quel que soit le candidat qui sortira vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche, quel que soit ce candidat élu, il aura d'extrêmes difficultés dans la situation actuelle et avec des rapports de force qui sont extrêmement défavorables. C'est-à-dire, enfin voilà, si vous voulez annuler une dette alors que votre pays il est dans une situation d'un tel marasme, ça va être extrêmement compliqué. Et espérons-le qu'il y ait des révoltes au Venezuela et qu'il y ait au Venezuela un choix politique qui permet de retourner vers à la fois une abondance pour les Vénézuéliens les plus pauvres, et puis pour le maintien donc d'une politique autonome avec un développement à long terme, c'est-à-dire sortir un peu de ce modèle rentier dans lequel Nicolas Maduro est resté prisonnier.
Et dans lequel il est coincé, et on verra ça, en tout cas les élections, ça se passe dimanche, on suivra ça évidemment dans Un jour dans le monde. Thomas Posado en direct avec nous sur France Inter. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde à Barcelone qui voit revenir ses touristes et aussi les ennuis qui parfois vont avec puisqu'ils sont extrêmement nombreux sous les radars aux États-Unis avec des paris sportifs au Vatican, notamment avec des nonnes qui sont sur Facebook. La carte blanche des correspondants nous emmène en Russie avec Claude Brouillot et en Italie avec Mathilde Amberti et puis Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça ne m'étonne pas, vous nous parlez de mariage princier.
Comment ça ne vous étonne pas?
C'est tout à fait vous.
Eh bien oui, on va parler mariage princier, tradition républicaine et aussi révolution.
Le tour de la planète continue sur France Inter avec Bob Dylan, I Want You. Guilty under take your side, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. They've gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Formidable Bob Dylan, I Want You, sur France Inter, sous les radars Yves de Cancé tout de suite.
France Inter.
Good evening and welcome.
Irresponsible Papillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Yves, on commence avec ce qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis en ce moment et qu'on a pu entendre notamment en boucle sur CNN.
Breaking news, the Supreme Court this morning striking down the federal ban on sports betting.
Now, la Cour suprême des États-Unis autorise les paris sportifs sur tout le territoire, où jusqu'à présent seul le Nevada y avait droit. Décision qui aiguise de nombreux appétits. Le gâteau étant estimé à plusieurs milliards de dollars. Super Bowl, NBA, baseball ou championnat de hockey. Ils vont être des millions à miser sur les grands rendez-vous du sport outre-Atlantique après un quart de siècle d'interdiction. Plusieurs États, dont le New Jersey, où se situe notamment l'autre ville du jeu, Atlantic City, avait déjà prévu de se lancer dans quelques mois. Un champ de course a déjà annoncé qu'il commencerait à prendre les paris dès le 28 mai prochain, d'où la nécessité de légiférer rapidement au niveau national pour encadrer les pratiques de ce qui va devenir le plus grand marché mondial des paris sportifs légaux.
On joue Podane au Kenya, mais c'est pas du tout un conte de fées.
Mais non, là, c'est un film dramatique réalisé au Kenya, mais produit en Chine, car c'est pour le marché chinois que les Kenyans massacrent leur population d'ânes pour fabriquer les JAO, un remède prétendument miracle, censé fluidifier le sang et améliorer la libido, remède à base de gélatine extraite des peaux d'ânes, dont les Chinois commencent à manquer, d'où l'appel au continent africain, où plusieurs pays ont déjà mis le holà, comme le Mali, le Niger, la Tanzanie. Pour satisfaire le nouvel appétit de la classe moyenne chinoise, il faudrait tuer dans les 10 millions de têtes chaque année. Or, on sait l'importance des ânes dans l'agriculture de nombreux pays africains. Pourtant, les autorités kenyanes ont fait le choix inverse. Elles ont laissé les Chinois déjà ouvrir 3 abattoirs spécialisés où 200 ânes sont tués tous les jours. Mmh. Voilà, comme ici, près de Nairobi, où John, un spécialiste du commerce des peaux, n'aurait jamais pensé gagner de l'argent avec des ânes, comme il l'a dit sur France 24.
Ici, au Kenya, nous n'étions pas habitués à abattre les ânes. Mmh. Alors je leur ai dit qu'on ne mangeait pas cette viande ici. Mais ils n'arrêtaient pas d'insister.
Ouais, ils ont tellement insisté, les Chinois, qu'à ce rythme, selon les ONG de défense des animaux, eh bien, d'ici six ans, les ânes essentiels au travail dans les champs auront disparu au Kenya.
Des nonnes, Yves, rappelées à l'ordre par le Vatican.
Eh oui, vous vous souvenez peut-être de ça.
Oui. Elle va chanter là. Hein. Vous êtes patient.
Voilà, elle, c'est Sœur Christina Scuccia, qui avait remporté The Voice en Italie, c'était en 2014. Elle a encore aujourd'hui dans les 27 000 followers. Et voilà qu'un groupe de nonnes espagnoles, cette fois, s'est fait remarquer fin avril en protestant sur les réseaux sociaux contre l'acquittement de 5 hommes accusés de viol sur une adolescente pendant les fêtes de Pamplune. « Nous vivons cloîtrés », ont écrit les sœurs qui vivent à Hondarribia, en Espagne. « Nous ne sortons pas, nous ne consommons pas d'alcool, nous avons des vêtements qui vont jusqu'aux chevilles. » Ce qui ne nous rend ni meilleurs ni pires que les autres, mais nous rend libres et heureuses. Et c'est pourquoi nous défendons le droit des femmes de dire ce qu'elles veulent, non sans être jugées, violées, intimidées. Voilà, le post sur Facebook a reçu plus de 14 000 likes. Il a été partagé 15 000 fois. D'où cette intervention du Vatican qui invite les nonnes à éviter de trop perturber leur vie contemplative par du bruit, des nouvelles et des mots. Qu'elles usent donc des réseaux sociaux, mais avec discrétion et sobriété si possible. On rappellera quand même que le pape François avait montré la voie dans l'utilisation des réseaux sociaux en créant en 2013 son fil Twitter, que suivent quelques 18 millions de followers, mais le pape, lui, ne vit pas cloîtré.
Voilà, il met toujours à la pointe du progrès cet homme-là. Merci beaucoup Yves Decamp, dans Un jour dans le monde.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca, le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et bienvenue sur les Ramblas, à Barcelone, sous le soleil, s'il vous plaît. Avec le retour des beaux jours, vient le retour aussi du trop-plein de touristes. On se souvient des manifs, même l'an dernier, des coups de gueule contre les touristes d'habitants excédés cette année. L'autre facteur, ce sont les soubresauts politiques, et c'est pas rien. Bonsoir Anne Mignard.
Bonsoir.
L'afflux de touristes, Anne, a commencé dans cette ambiance-là, donc, mais à vue de nez, en tout cas là où vous êtes, il y a déjà du monde.
Oui Fabienne, c'est très clair, il vous suffit de mettre un pied sur la Rambla, cette avenue qui relie le port au centre-ville, pour ne plus savoir dans quel pays on se trouve. On y parle français beaucoup, mais aussi anglais, allemand, néerlandais, et très peu espagnol, et encore moins catalan. Barcelone, c'est aujourd'hui une ville de moins de 2 millions d'habitants qui héberge chaque année 15 millions de touristes et qui voit passer près du double dans ses rues, ses restaurants, ses musées et sur ses plages. Maxence est parisien, il fait des études de commerce à Barcelone et il vit dans le centre-ville.
C'est surtout l'été où c'est horrible. C'est-à-dire que ça va commencer à partir de fin juin jusqu'à mi-septembre, au moins, où là c'est impossible. J'ai fait plusieurs stages ici pendant l'été et c'est envahi de partout et tous les grands axes sont envahis. On attend partout et on peut comprendre les Catalans des fois parce qu'ils ne se sentent plus chez eux. Et qu'il y a un manque de respect général des touristes aussi. C'est pour ça qu'on peut voir partout marqué on veut un quartier libre et un balu digna.
Effectivement, les banderoles ont fleuri ces dernières années au balcon du centre-ville. Il y a 4 ans, les habitants ont même manifesté contre l'invasion de ces touristes, puis se sont regroupés au sein d'un collectif pour faire pression sur les autorités et sensibiliser la population. Daniel Pardo, la quarantaine, casquette vissée sur la tête qui ne quitte jamais son vélo, fait partie de ce collectif.
L'industrie touristique fait beaucoup d'argent qu'elle ne redistribue pas, ou très pauvrement, et qui en plus laisse des conséquences sociales terribles. Le changement d'utilisation du parc d'habitation de la ville vers le logement touristique collabore à la hausse des prix des loyers. Ça produit de l'expulsion de résidents de leur quartier. Ça, c'est le plus grave de tous, mais disons qu'il y a tout un tas d'autres effets. On peut parler, par exemple, de la transformation du tissu commercial de la ville qui se spécialise dans le tourisme, les services et les boutiques touristiques, mais on a besoin d'épiciers, des choses de tous les jours, et ça, c'est en train de disparaître. Ça rend du coup la vie plus difficile aux gens, spécialement aux gens âgés ou avec des difficultés de mobilité, etc. On a après aussi un côté très important qui est le travail. Ce qui se passe, c'est que les conditions de travail dans ce secteur-là sont carrément plus négatif que sur d'autres secteurs. La moyenne de salaire dans le secteur touristique, en comptant le commerce, l'hôtellerie et la restauration, c'est à peu près la moitié du salaire moyen général de la ville.
Sans parler des conséquences écologiques, la mairie de gauche, qui est arrivée en 2015, a choisi de travailler avec ce collectif pour tenter d'endiguer les effets de ce tourisme de masse. Agustí Colón est l'adjoint dédié au tourisme.
Nosotros hicimos varias cosas, ¿no? Para intentar afrontar esta situación. La primera hicimos una moratoria.
On a fait plusieurs choses pour faire face à cette situation. La première chose, un moratoire pour faire l'état des lieux des logements touristiques. Puis, pour faire un plan d'urbanisme qu'ensuite nous avons approuvé. On a divisé la ville en 3 zones pour refléter son hétérogénéité. Une zone déjà très saturée, où ce n'est plus possible de faire de nouveaux logements. Une autre où il n'est pas possible d'augmenter le nombre de logements, mais où il ne faut pas non plus les réduire. Et une troisième zone où il y a une possibilité de croissance durable de logements.
Y la tercera zona, una posibilidad de un crecimiento, un aumento sostenible de alojamientos. Luego hicimos un
Ensuite, plan de on a aussi fait un plan de choc contre les appartements touristiques illégaux.
Por dos vías.
Comment avons-nous fait? On l'a fait de deux façons. Une, en travaillant avec les plateformes, en leur demandant de cesser de promouvoir les appartements touristiques illégaux sur leur site. Et la deuxième façon, en créant des équipes d'inspecteurs qui essaient de trouver sur les sites web les appartements touristiques illégaux et de détecter s'ils n'ont pas de licence et s'ils ne l'ont pas, de les localiser. Ensuite, on demande au propriétaire d'arrêter la location et on lui donne une amende qui correspond à l'infraction. Nous parlons là d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros pour un particulier et jusqu'à 600 000 euros pour une plateforme.
Résultat, selon les autorités, on serait passé en 3 ans de 6 à 3 000 logements illégaux. Enrique Encantara est le président d'une association de loueurs d'appartements. Et lui, il a une autre solution pour lutter contre l'invasion du centre-ville par les touristes.
Comment peut-on y arriver? Nous créons des pôles d'attraction en dehors de Barcelone, en dehors du centre, pour que les gens soient intéressés par Montserrat, par Sitges, par Montjuïc. Il faut planifier la ville pour créer ces pôles d'attraction et les répartir de façon cohérente.
Allez, tiens, pour conclure un chiffre pour vous, les soubresauts, les manifestations, les heurts liés à l'indépendance ont fait chuter le tourisme de 10%. C'était à l'automne. On verra ce que ça devient pour ce printemps et cet été. Anne Mignard, merci beaucoup à Barcelone pour Un jour dans le monde. Voici Ben Harper et Charlie Musselwhite, Found the One.
four leaf clover in a mile of weeds.
Found the one
understands my downs.
Found the one
put up with my needs of everybody under the sun. I found the one. If you're gonna gamble, may as well be on love.
Et Charlie Musselwhite sur France Inter, Found the One. Power Hit
Radio. BBC News,
Jazeera, CBS Morning News.
France Inter,
Public Broadcasting.
Le 18-20.
Equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
La carte blanche des correspondants de France Inter qui ont vu ce que vous ne lirez pas ailleurs. Bonsoir Moscou, bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Claude, on a beaucoup parlé de ce fameux pont entre la Russie et la Crimée. Très bien, vous nous l'avez fait vivre. Mais vous voulez nous parler d'un autre pont qui est beaucoup plus vieux, qui est à Moscou, qui est haut de 30 mètres. Si bien que le grand plaisir, c'est de jouer les casse-coups et monter le plus haut possible.
Alors pour tous les jeunes et moins jeunes qui grimpent là-haut, ça commence par une petite séquence de rap russe le long de la Moskova, au pied du pont Andreïevski, pour se donner un petit peu de courage. Une fois qu'on a le rythme bien dans la tête, le plus facile c'est de s'attaquer par un escalier intérieur à la plateforme du pont, une fois ignoré tout de même la guérite des agents de sécurité. Arrivent enfin les grandes arches métalliques du pont, d'environ 80 cm de large, qu'il faut escalader en gardant l'équilibre si possible. Une fois au sommet, on tombe sur Tania, 18 ans, une habituée des lieux, qui nous dit son bonheur simple d'être à 30 mètres au-dessus de la Moskova, avec une vue imprenable sur le parc Gorki.
Je ne sais pas. C'est drôle. C'est pour le plaisir. Tu admires, tu te relâches. Je suis tombée une fois du cinquième étage et depuis je n'ai plus peur du vide.
À côté de Tania, il y a Danil, 18 ans également. Il a laissé sa planche de skateboard à ses côtés et fume tranquillement sa cigarette américaine en regardant au loin en direction du Kremlin.
C'est simple, je pense à mon avenir, j'ai besoin de me relaxer. C'est pour me concentrer, je ne sais pas, quand tu es tout seul c'est plus simple. Je ne suis pas un amateur de situations extrêmes, c'est la première fois que je monte.
En redescendant, allègrement, on s'arrête cette fois devant le poste de sécurité au pied du pont Andreïevski. L'un des gardiens, avec beaucoup de philosophie, nous explique son impuissance face au phénomène.
Nous sommes au courant, nous les chassons, mais ils remontent. La police les chasse aussi, ça ne sert à rien. Avant, ils montaient aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Cette année, ils sont nombreux. La police vient de passer. On est encore allé les chasser ensemble. Ils remontent. Personne n'est encore tombé, mais ça peut arriver. Ça ne sert à rien de les chasser. Il faut mettre des barrières.
Dites-moi, Claude, si je comprends bien, vous êtes monté, vous aussi, et franchement, vous êtes un peu foufou. Alors, très sérieusement, comment on explique que dans un pays aussi réglementé que la Russie, les autorités laissent faire, et puis au-delà de ce côté très dangereux, on est à 3 semaines et demie de la Coupe du Monde de foot, il ne faudrait pas que tout ça donne des idées, et donc risque de poser des problèmes.
Oui, alors, ce qu'écrit la presse moscovite, d'ailleurs, sur les téméraires du pont Andreïevski, il y a le problème de sécurité, bien sûr, pour les adolescents qui grimpent en cachette de leurs parents, ou celui des jeunes qui montent en fin de soirée, mais l'endroit est devenu un espace de liberté, une des rares occasions ici de faire ce qui est interdit. Mais il est probable que dans 3 semaines, l'endroit sera sécurisé et perdra donc de son intérêt. Et une fois de plus, la réglementation qui concerne la stricte limitation des rassemblements pendant la Coupe du Monde de football volera au secours des autorités russes.
Claude Brouillot, casse-cou de France Inter, merci beaucoup. Bonsoir Rome et bonsoir Mathilde Amberti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, on s'est parlé hier ensemble de cette alliance Ligue et 5 étoiles chez vous, qui en plus d'être atypique, communique aussi différemment contre les médias traditionnels. C'est devenu presque un exercice habituel. Et donc contre l'ancien monde, c'est aussi ça que ça veut dire?
Oui, tout à fait. C'est sur Facebook, en fait, que l'on écrit la politique ces jours-ci. Sur Facebook, Matteo Salvini et Luigi Di Maio font état de l'avancée de leurs négociations, qu'ils ont rassuré leurs troupes toute cette semaine. Oui, l'accord se fera, clame Di Maio. Non, il ne se fera pas. Si nous n'avons pas toutes les garanties, martèle l'extrême droite qui veut les mains libres sur l'immigration. Salvini, 45 ans, Di Maio, 31, se filme tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. De leur smartphone directement, pas de caméra en interface, ni même de perche. Ainsi, hier midi, nous nous retrouvions à l'heure du déjeuner en face à face avec Matteo Salvini, en gros plan, très très rapproché. Salvini expliquant aux Italiens qu'il n'accepterait pas les diktats de hauts fonctionnaires non élus, alors que quelques heures plus tôt, trois commissaires européens dans leur costume cravate exprimaient des réserves sur le programme du futur exécutif. Matteo Salvini, lui, préfère les sweatshirts, à capuche de préférence, parfois signé Milan AC, son club de cœur. Le secrétaire de la Ligue le troque tout de même pour une tenue formelle. Lorsque le chef de l'État le convoque pour les officielles consultations, c'est un passage obligé par la présidence de la République qui ressemble de fait de plus en plus à une sortie au théâtre, l'apparat du palais du Quirinal face à une nouvelle garde politique.
Et donc Mathilde, les réseaux sociaux se délectent de ce contraste-là?
Oui, les caricatures fleurissent sur Twitter notamment, ce contraste entre le garant des institutions, le président de la République, Sergio Mattarella, encadré par une garde présidentielle imperturbable, en grand uniforme et casque de cuirassier. Mattarella, âgé lui de 76 ans, et qui face à cette nouvelle donne politique doit plus que jamais faire preuve de sagesse. Les comptes satiriques sur Twitter s'amusent beaucoup de cette image du grand-père sage, mais un peu conventionnel, qui fait la leçon institutionnelle aux petits genoux. Sergio Mattarella a ainsi fait savoir à Luigi Di Maio et Matteo Salvini qu'il attendait, avant de le valider, une version complète de leur contrat de gouvernement, pas un brouillon comme celui qui a été déposé sur son bureau en début de semaine. C'était une pratique jamais osée auparavant. Alors avec la Ligue et les 5 étoiles aux portes du pouvoir, c'est un changement dans le style, dans la parole politique, une rupture revendiquée avec le microcosme de l'establishment qu'il déteste tant, un virage revendiqué fièrement par la Ligue et par les 5 étoiles. Nous écrivons l'histoire, a proclamé Luigi Di Maio cette semaine, répondant à la va-vite, à une meute de journalistes en recherche d'infos, puisque la presse traditionnelle, il faut le dire, audiovisuelle compris, apparaît bousculée, elle aussi, par ces nouveaux venus, qui, au plateau traditionnel, préfèrent les réseaux sociaux et les messages en quelques signes. Ces nouveaux puissants avec qui, d'une manière ou d'une autre, elle va devoir composer. C'est un saut dans l'inconnu à tout point de vue ici.
Mathilde Imberti avec nous depuis Rome. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
L'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, plus que deux jours à attendre avant le fameux mariage royal. Et vous ne me semblez pas très impressionné comme garçon.
Et pour une bonne raison, parce que moi j'y serai. Et toc. Donc,
il me reste. Pas sûr de vous envier, pour être tout à fait honnête. Mais bon.
Donc, il me reste quelques heures de lucidité avant de succomber, comme tout le monde, à la Harry Meghan Mania. Je vous ramène un mug. Vous voulez que je vous ramène un mug?
Moi j'en ai un, figurez-vous. Charles et Diana, qui doit commencer à valoir un peu d'argent.
Voilà. Bon, il est encore temps de poser quelques questions simples, en fait. D'abord, pourquoi tant d'intérêt? Alors qu'objectivement, ce n'est pas le premier mariage royal de la décennie, ce n'est même pas le plus important. Je rappelle qu'en termes de numéro, le prince Harry n'est que 6e dans l'ordre de succession. Et bien d'abord parce que c'est le dernier des mariages sérieux, c'est-à-dire en ligne directe depuis le souverain Elisabeth II. Ensuite parce que Meghan Markle est une célébrité hollywoodienne moderne. Elle a triomphé à la télé sans presque jamais avoir tourné de film. Enfin, parce qu'il unit ce mariage deux puissances médiatiques de premier plan, la Grande-Bretagne avec sa BBC, qu'en France le gouvernement rêve d'imiter. Et ces tabloïdes à plusieurs millions d'exemplaires quotidiens. Puis il y a de l'autre côté, évidemment, les États-Unis et sa force de frappe télévisuelle et Internet.
Mais on ne se marie pas pour la télé, pour les journaux. Enfin, quoique, vous me direz.
Mais oui, on voit bien que vous n'êtes pas une princesse Windsor, Fabienne. Hein.
Voilà, vous connaissez mal.
Voilà une famille qui, depuis les années 30 du siècle dernier, vit, se marie et meurt à la télévision et à la radio. Sonia de Villers, vous savez, notre spécialiste des médias à France Inter, me faisait remarquer combien la famille royale a accompagné, sinon précédé, la révolution et toutes les révolutions médiatiques. Septembre 1939, entrée en guerre de la Grande-Bretagne et premier discours d'un roi à la radio, celui du père d'Elisabeth II, George VI. 1953, couronnement d'Elisabeth en direct à la télé et retransmis dans le monde entier pour la première fois, encore une fois. Août 97, mort de Diana et âge d'or de la presse tabloïde britannique. On a même pu écrire que la princesse du peuple avait été tuée par cette même presse qui la traquait partout et jusque sous le tunnel du pont d'Alma où elle est décédée. Enfin, 29 avril 2011, mariage de Kate et William, l'ère des réseaux sociaux. Souvenez-vous, la twitto, facebooko, instagramosphère n'avait Dieu que pour le postérieur de Pippa, la sœur de la mariée, au point d'éclipser la future duchesse de Cambridge.
Alors Anthony, il y a quand même des opposants ou des indifférents à ce mariage princier.
Oui, bien sûr. Hein. Commencez par les Britanniques eux-mêmes, qui à 66% se sont récemment déclarés peu ou pas du tout intéressés par ce mariage. C'est pire chez les hommes qui auront le choix ce jour-là entre un match de foot et le mariage. Je vous prédis sans risque que ce sera foot et de loin. Ensuite, il faut parfois sortir d'Angleterre pour mesurer cette relative indifférence. En Écosse, c'est 75% des Écossais qui déclarent avoir autre chose à faire qu'à regarder des chevaux défiler et une messe trop longue. Même indifférence en Irlande du Nord. Sauf que là-bas, il a même fallu annuler des réunions et des banquets publics spécialement organisés pour ce mariage royal et pour des raisons de sécurité, figurez-vous. Les républicains irlandais ont en effet expliqué qu'ils considéraient ces festivités comme une provocation. Enfin, il y a un courant très minoritaire, certes, mais très actif, qui rêve d'une république et d'un chef d'État élu comme le nôtre. Samedi, ils manifesteront dans tout le royaume pour rappeler que la monarchie n'est plus d'essence divine et peut être renversée.
Mais d'ailleurs, pour rappel et pour mémoire, la Grande-Bretagne a aussi coupé la tête d'un roi comme nous.
Exactement, et à la hache en plus. C'était Charles Ier en 1649, à l'issue d'une guerre civile qui s'est terminée en révolution et en Commonwealth, c'est-à-dire en république. Une république qui a été instaurée et dirigée par Olivier Cromwell. Cromwell qui reste, vous le savez, peut-être une figure très controversée et qui n'a que 5 statues en Grande-Bretagne, dont une à l'entrée du Parlement de Westminster. En clair, tous les ans, la reine doit passer devant la statue du bourreau de son prédécesseur Charles Ier avant d'ouvrir la session du Parlement. À bon entendeur, salut.
Eh ben, merci beaucoup pour l'avertissement, j'allais dire, Anthony. Et donc, bon mariage princier, puisque vous y allez, ramenez-moi quand même un mug, en effet. Ah. La suite du 18-20 avec le journal de Sébastien Power et puis le téléphone sonne. À tout de suite et bonne soirée sur Inter.